Alors, maintenant, on s'en va chez Monique, qui nous parle aujourd'hui d'un texte qui concerne les éco-émotions que vous avez trouvées, Monique, dans la conversation.
Exactement, du 10 février dernier, sous la plume de Marie-Josée Drolet, qui est professeure titulaire en éthique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, sachons au point de départ que les éco-émotions, Hélène, sont des émotions reliées à la Terre.
Ah bon?
Oui, et que c'est le philosophe australien Glenn Albrecht, qui a été l'un des premiers chercheurs à s'y intéresser. L'incapacité de les reconnaître et de les comprendre serait susceptible de mettre à risque la santé et le bien-être d'une personne, en plus de nuire à son engagement dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi cet article discute de 6 éco-émotions. Alors, dans son livre, Albrecht, intitulé « Les émotions de la Terre », il propose une typologie de différentes éco-émotions, les négatives et les positives. La plupart des écrits actuels traitent des éco-émotions négatives. Parmi celles-ci, la plus discutée et peut-être celle que l'on pensait qui englobait toutes les autres, c'est l'éco-anxiété. Alors, elle est parfois qualifiée de concept parapluie en ceci qu'elle englobe plusieurs éco-émotions négatives. Il est bien entendu utile et pertinent de mettre des mots sur les éco-émotions négatives parce que ça permet notamment de les repérer, de les comprendre, ce qui constitue une étape essentielle vers une meilleure gestion de celles-ci. Mais il importe aussi de mettre des mots sur les éco-émotions positives. Celles-ci sont en effet à même de soutenir le mieux-être des personnes et leur engagement constructif dans la lutte contre les changements climatiques. Je dois dire que je n'avais jamais entendu parler d'éco-émotions positives. Ça m'a fait plaisir et peut-être que ce sera une lumière pour vous aussi, auditeurs, auditrices, Hélène et toute l'équipe autour de vous.
La lumière au bout du tunnel.
Oui, peut-être, oui. Alors, en tant qu'ergothérapeute et philosophe éthicienne et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, les travaux donc de Marie-Josée Drolet portent sur l'éthique appliquée en santé, considérant que la crise climatique est l'une des plus grandes menaces contemporaines à la santé, bien, plusieurs de ces projets portent sur les rôles que peuvent avoir les ergothérapeutes pour soutenir des pratiques professionnelles durables et accompagner diverses personnes dans leur désir d'éco-responsabilité. Donc, l'article a pour objectif de fournir une certaine cartographie des éco-émotions afin que toutes les personnes puissent en reconnaître les principales sans être confinées aux seules éco-émotions négatives. Parmi les éco-émotions négatives se retrouvent l'éco-anxiété, la solastalgie et l'éco-paralysie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les définir. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, notre monsieur Albrecht en décrit près d'une vingtaine dans son livre. Celles-ci décrivent des émotions de plus en plus vécues dans le contexte actuel. Alors, passons maintenant, comme je vous l'annonçais, à la définition de ces 3 éco-émotions négatives. Alors, l'éco-anxiété peut être définie comme une réponse émotionnelle à la menace posée par la crise du climat et de la biodiversité, laquelle est liée à la détresse et est de nature anticipative.
Anticipative?
Oui, okay. Oui. Anticipatoire, pardon. Oui,
je me demandais si c'était le bon qualificatif, vous qui êtes si amoureuse de la langue française.
Oui, merci de m'avoir repris. Alors, pour sa part, la solastalgie, alors c'est un néologisme qui a été créé par M. Albrecht, elle correspond à la désolation et à la tristesse causée par la perte ou la dégradation de milieux naturels réconfortants que l'on affectionne. Ainsi, tandis que l'éco-anxiété est tournée vers le futur et la peur des catastrophes à venir, la solastalgie est nostalgique et tournée vers le passé et peut-être nous déprime et dépressive. Enfin, l'éco-paralysie se présente lorsque l'anxiété devient si intense qu'elle se transforme en une incapacité d'agir face aux défis environnementaux, notamment parce que ceux-ci sont perçus comme insurmontables et insolubles.
Alors, on est pétrifié.
À peu près, oui, paralysé sur place. Ouais. Alors, ces éco-émotions sont considérées comme négatives au sens où elles sont liées à une gamme d'émotions négatives. On a nommé la détresse, la nature anticipatoire, mais il y a la peur, la désolation, l'impuissance. Cela dit, mis à part l'éco-paralysie, bien que négative, ces éco-émotions peuvent aussi soutenir l'engagement des personnes dans la lutte contre les changements climatiques. On pense à Greta Thunberg, hein. Je pense que c'est un bon exemple de personnes qui agissent même peut-être sous l'effet de la détresse et de l'impuissance ou de la désolation.
Envers
et contre tous, en effet. Elles peuvent, en effet, être de puissants moteurs à l'action et éventuellement se permuter en éco-émotions positives. Passons donc à ces éco-émotions positives. Parmi celles-ci, répertoriées par les experts, se trouvent la topophilie, la solifilie et l'euthyrie. Encore une fois, cette liste-là n'est pas exhaustive. Monsieur Albrecht, notre Australien, là, en décrit près d'une dizaine. Mais elle donne toutefois des exemples d'éco-émotions positives pouvant soutenir le mieux-être des individus et les relations positives avec leur environnement. Voici donc une explication de chacun de ces thèmes. D'abord, la topophilie. Alors, c'est issu des mots grecs topos, qui signifie « lieu », et « philia », qui désigne l'amour. La topophilie correspond donc à l'attachement et à l'affection ressentie par une personne envers certains endroits. Selon Albrecht, ce serait le poète Winston Hugh Howden, en 1947, qui aurait pour la première fois utilisé ce concept, lequel a été ensuite repris en 1974 par le géographe sino-états-unien Yi Fu. Somme toute, la topophilie, c'est la joie esthétique et l'émerveillement ressenti par une personne concernant un lieu. Je pense que je suis victime, Hélène, de topophilie. Mon environnement m'émerveille chaque jour.
Alors, c'est un beau problème jusqu'à un certain point, là, parce que vous parlez de victimisation, mais...
Oui, mais là,
une belle victime
ici. Peut-être que ça vient compenser mon anxiété par rapport à tout ce qui se passe à travers la planète. Oui. Alors, le deuxième, c'est la solifilie. Alors ça, c'est issu des mots latins « solidus », qui signifie « solide » ou « total », et grec « philia », bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure, qui désigne l'amour. Alors la solifilie, c'est un autre néologisme de M. Albrecht, il était très productif, correspond pour sa part à la solidarité ressentie par une personne envers un lieu, laquelle se traduit par l'engagement politique avec ses semblables pour sa préservation. Et enfin, le thierry, concept aussi créé par Albrecht, vient du mot grec « eu », qui désigne « bon », et du mot espagnol « tierra », qui veut dire « terre ». Le thierry désigne le sentiment d'unité que peut ressentir une personne avec l'environnement naturel, lequel apporte une impression de paix et de béatitude au sein de laquelle les limites entre sa personne et le monde vivant s'érodent. Je pense qu'on peut trouver, Hélène, des lieux dans notre environnement où on pourra peut-être éprouver une de ces trois éco-émotions positives et qui nous calmeront peut-être.
Ah oui.
Par rapport à notre éco-anxiété ou notre solastalgie, je pense qu'on peut créer l'équilibre entre tous ces univers. Donc, considérant l'ampleur de la crise climatique actuelle et ses conséquences de plus en plus visibles, il est normal qu'un nombre croissant d'individus soit amené à vivre des éco-émotions. Bien que les éco-émotions négatives puissent soutenir ces personnes dans leur transition écologique, les éco-émotions positives ont également leur importance. Elles ont notamment le potentiel de soutenir la santé mentale et le mieux-être des individus. Elles peuvent également aider ces personnes à imaginer des mondes possibles plus justes, plus solidaires et plus durables. On l'applique donc à l'interrelation entre les personnes. De manière non négligeable, les éco-émotions peuvent aussi favoriser l'engagement des individus dans la transformation de nos manières d'habiter le monde. Peut-être, selon moi, le respecter, quoi. Les éco-émotions positives ont ce super pouvoir et elles sont à notre portée. Il nous suffit de nous réensauvager pour les vivre pleinement. Alors, réensauvager. En fait, j'ai trouvé, Hélène, parce que j'ai cherché qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. On parle d'ensauvagement urbain. C'est laisser la nature, entre autres, s'exprimer dans les villes.
Oui.
Repenser la place de l'arbre dans la ville, investir les toits, avoir des friches libres, en libre évolution, plutôt que des mini-forêts ou des terrains bien gazonnés. Dans certains cas, peut-être restaurer des petites rivières et bien d'autres initiatives citoyennes qui amènent la nature dans la ville ou encore préservent la nature que l'on a à l'extérieur des villes. Alors, j'espère que vous éprouverez moins d'éco-émotions négatives et que vous découvrirez des éco-émotions positives.
On les découvre particulièrement grâce à vous, à ce partage de cette chronique qui est quand même pas trop déprimante. Et puis, on va chercher des endroits là, pour justement se sentir non pas paralysé ou pétrifié, mais un peu plus bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son cœur. Et anticipatoire et anticipatif, Monique, ce sont deux mots qui existent. Anticipatoire signifie ce que l'on fait afin de se préparer à quelque chose de futur, et anticipatif qui anticipe sur ce qui suit. Alors, voilà pour la différence entre ces deux adjectifs qualificatifs.
Peut-être que mon erreur conviendrait mieux, je pense.
Ça se peut bien. Alors, voilà.
Je ne suis pas l'auteur, donc je ne peux pas corriger.